Parlons économie. Sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
Merci d'être avec nous, car nous parlons économie, nous parlons du négoce de matières premières. C'est fascinant, hein, on comprend bien, grâce à celles et ceux qui sont avec nous aujourd'hui, ce que signifie négoce de matières premières. Et finalement, j'ai l'impression que ça veut dire un peu tout, Benoît Liou. Hein. On en parlait hors antenne, la matière première, c'est tout ce qui n'est pas transformé.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur où la matière est peut-être éventuellement un peu transformée, mais très peu. Donc elle est, on va dire, à l'état fongible, ce qui justement offre beaucoup d'alternatives, notamment de livraison, de points de livraison. Une cargaison de pétrole à un endroit donné peut très bien aller se mélanger avec une autre à quelques conditions près. Mais donc on est dans un marché qui offre énormément d'alternatives, et c'est justement notre travail d'optimiser le flux pour que le producteur obtienne le prix maximum de sa marchandise, tandis que le consommateur lui aussi obtienne le prix minimum, et évidemment pas au même moment. C'est pour ça qu'on est entre les deux.
Et est-ce qu'on travaille de la même manière avec, je prends deux exemples, quelqu'un qui fait du café en Amérique du Sud et quelqu'un qui fait du thé au fin fond de l'Asie ? Est-ce que ce sont les mêmes méthodes ?
Pour la partie agricole, je ne pourrais pas trop vous dire, mais de manière générale, on travaille généralement par type de produit. Hein, au niveau de l'énergie, ceux qui font de l'électricité sont proches de ceux qui font du gaz, mais la logistique, en fait, est importante. Puisqu'on va jusqu'à livrer le produit. Donc voilà, c'est la chaîne logistique va commander, si vous voulez, les méthodes de travail. En revanche, tous les principes de négociation, de couverture des risques, d'assurance, etc., ont des commonalités qui sont effectivement gérées par des services supports dans nos organisations.
Et nous parlions il y a quelques instants de nouvelles technologies. Est-ce que cela vous aide, ou est-ce que vous vous en servez dans votre métier ? Je pense à l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, qui permet, on la nourrit de modèles qui ensuite peut, on l'espère le plus justement possible, nous prédire certaines choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse ?
Alors, ça nous intéresse à plus d'un titre, ça fait déjà plusieurs années. Dans notre mission, on se doit de comprendre les dynamiques de prix, de comprendre les équilibres offre-demande. Donc l'information, c'est notre matière première à nous. Donc il faut qu'on l'acquière, qu'on la digère et qu'on la restitue. Donc il est évident que depuis déjà plusieurs années, on a mis en œuvre toutes les techniques qui étaient à disposition, notamment l'intelligence artificielle. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, elle est démocratisée un petit peu plus, mais ce sont des modèles qu'on utilise parce qu'on doit décrypter une information qui devient complexe. Les masses à traiter sont gigantesques. Je prends l'exemple du marché de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité en Europe et partout dans le monde intègre des énergies intermittentes, hein, solaire et puis le vent, la biomasse, etc. Donc tout ça est connecté à un ensemble de données naturelles, de marché qui devient absolument gigantesque. Et pour traiter cette information-là, on se doit d'utiliser des systèmes. Donc on a de plus en plus de profils en interne, justement, qui sont là pour à la fois coder, mais j'ai envie de dire décoder l'information.
Oui, c'est même de la traduction, je dirais, à ce niveau-là. Hein.
De la traduction, de la restitution, parce qu'effectivement, on aide, si vous voulez, le trader à capturer l'information et la restituer dans une forme qui va lui être utile. Sinon, c'est ce qu'il faisait jusqu'à maintenant avec des analystes, mais les méthodes ont évolué. Mais surtout, la quantité d'informations n'est plus traitable simplement par le cerveau humain.
Est-ce que c'est comme ça qu'on peut anticiper les choses dans des environnements, on le disait un peu plus tôt, extrêmement instables, quel que soit le plan que l'on regarde ?
Alors, il faut se méfier avec le mot anticiper. Effectivement, on essaye toujours de comprendre ce qui va se passer, etc. Mais on est très humble, on sait qu'on ne pourra jamais avoir raison. C'est pour ça qu'on développe plutôt des techniques de couverture, c'est-à-dire que quand on va transporter une marchandise et qu'on va en fixer le prix, on va s'assurer auprès des marchés financiers, avec toutes les techniques qui sont disponibles, de manière à justement ne pas jouer, j'ai envie de dire spéculer, avec des données de marché qui nous échappent. Donc on essaie d'anticiper l'offre et la demande, ça c'est notre travail. Mais on sait aussi qu'on n'aura jamais, juste. Et donc, il faut prévoir les mécanismes d'ajustement par rapport à nos prévisions. vision.
Et d'où l'important, j'imagine aussi, de rester en formation tout au long de sa vie. C'est ce qu'on dit régulièrement dans cette émission, hein, c'est d'arriver à maintenir les méthodes, les techniques, les moyens d'arriver à tout ça.
Voilà, alors à la fois ça se fait par formation interne ou externe, mais aussi par l'infusion de nouvelles, nouvelles ressources. Hein, donc les jeunes qui rentrent chez nous, effectivement, ont des profils qui ont évolué par rapport à il y a quelques années, avec des profils un petit peu plus, on va dire, techniques, technologiques, mais pas que. L'idée, c'est maintenant d'avoir des personnes qui sachent dialoguer avec les machines, qui sachent les coder, évidemment, mais ça, j'allais dire, c'est pas forcément réservé à des ingénieurs, hein, mais qui sachent voilà, utiliser la machine pour faire le métier qu'ils faisaient avant. Donc les profils, effectivement, ont un tout petit peu changé, mais on évidemment, les capacités d'analyse financière, sociologique, etc., sont évidemment bienvenues.
Je dirais, parler digital, mais on reste quand même face à des matières.
C'est ça.
On reste face aux matières premières. Et je pense, tel que moi je le perçois, et c'est ce que j'ai remarqué dans l'interaction avec nos membres, oui, bien sûr, on est à Genève, touche pas le pétrole qu'on transporte, on ne voit pas le café qu'on a acheté en Amérique centrale et qu'on a revendu, ni le cacao, ni les grains, ni tout ça. Mais finalement, c'est comme ça qui se passe. Il y a quand même des personnes, il y a des millions de personnes en Afrique ou en Amérique qui vivent et qui ont leurs revenus parce qu'il y a un négociant qui achète leurs matières premières. Moi-même, j'ai dégusté mon bout de chocolat. Vous voyez, s'il n'y aurait pas eu des négociants, je ne l'aurais pas mangé. Et je pense que c'est important dans toute formation de trouver le bon équilibre entre tout ce qu'on a parlé avant sur la digitalisation, des outils, des méthodes, des moyens, mais de se rappeler quand même que finalement, dans le négoce de matières premières, on parle de choses très concrètes.
Je me permets de rebondir, parce qu'effectivement, je crois que la grande spécificité du négoce de matières premières, c'est l'expertise qui est développée par les collaborateurs. Comprendre le fonctionnement de cette matière, comment elle a été produite, comment elle est transportée, et tous les aléas qu'elle va subir le long de la chaîne d'approvisionnement, ça, cette expertise-là, vous ne l'apprendrez pas dans les livres. C'est les personnes qui ont été sur le terrain, qui vont vous expliquer comment ça marche. On parle à des gens, on parle à des producteurs qui sont divers et variés à travers le monde. C'est eux qui, finalement, vont vous expliquer ce qui se passe. Et donc, c'est assez c'est crucial.
Ça me fait penser à un mot en particulier, mais je vous dirai lequel dans quelques instants. Vous restez avec nous.